Our second speaker is Sepp Farge from University of Bordeaux-Montaigne. Sepp's presentation is, the title is About Documentary Film in Development, Lizzie Mercier de Lowe, The French Connection.
All right. Alors, je vais parler en français. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, en fait, je viens vous présenter un travail sur lequel j'ai commencé très récemment, sur Lizzie Mercier de Lowe, qui est donc une chanteuse d'origine française, qui a commencé, enfin, qui a priori est parisienne, et qui donc est partie très jeune à New York, donc au moment justement de la New Wave, c'est-à-dire vers les années 77-78. À la base, bon, enfin moi, si je relis donc le sujet de ce colloque, donc on est autour du punk. Moi, je suis né en 72, donc effectivement, le punk, j'ai connu ça, mais après, quoi, parce que j'étais bien évidemment trop jeune à la fin des années 70. C'est vrai que moi, je suis plutôt, on va dire, plutôt un enfant de la New Wave, même si la New Wave, c'était aussi au début des années, fin 70, début 80. Mais j'ai été attiré quand même très vite quand j'étais ado, c'est-à-dire dans les années 80. La scène américaine, donc les précurseurs de la musique, on va dire, un peu intellectuelle de New York, avec le Velvet Underground. Et après aussi, le côté un peu plus rock et punk, des précurseurs, on va dire, du punk, comme les Stooges. Et puis après, le côté un peu plus festif, B-52s, Suicide, qu'on a entendu d'ailleurs, les Suicide. Et ensuite, Sonic Youth, qui eux ont commencé donc au tout début de la No Wave, qui est une période un peu aussi musicale, hein, pas seulement donc cinématographique, qui est une période très courte finalement, qui a peut-être duré 2 ou 3 ans. Et par exemple, le premier album de Sonic Youth, qui doit dater de mémoire de début 80, et un exemple de No Wave au niveau de la musique. Moi, Lizzie Mercier de Lowe, je ne la connaissais pas plus que ça, sauf bien évidemment le tube qu'elle a eu en France au milieu des années 80, mais où sont passées les gazelles. Mais à part ça, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment son œuvre. Et finalement, c'est il y a 10 ans, j'ai commencé à entendre des compilations d'un label qui s'appelle Z-Record, qui était donc le label d'un producteur français, parisien, à la base, Michel Esteban. Vous allez voir, on en parle après dans le film. Et du coup, j'ai découvert le premier album de Lizzie Mercier de Lowe, qui était un EP, qui était donc sous un homonyme, enfin, Lizzie Mercier de Lowe. Le groupe s'appelait Rosa Yemen. Et alors, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais entendu un titre qui s'appelait Herpes Simplex. Et bon, ça m'avait fait rire, Herpes Simplex. Et du coup, moi, ce qui me plaisait dans cette musique-là, vous allez la découvrir, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, donc vous allez voir essentiellement lors de mon intervention, un extrait du film sur lequel je travaille, qui sera donc un film documentaire, hein, j'imagine que vous avez compris. Et donc, j'ai été charmé par cette musique un peu, voilà, très énergique, énervée. Voilà, alors, c'est pas du punk, vous allez voir, c'était avant le post-punk. Hein, c'est de la no-wave, vous allez voir ce que c'est la no-wave, d'un point de vue musical. Par contre, faire un film, moi, mon film va être essentiellement un film d'archives. J'ai aussi pour projet d'intervenir dans le film, c'est-à-dire de trouver des financements. Hein. Bon, ça va dépendre comment la production va se passer, pour pouvoir aller à New York et aller rencontrer les acteurs, les gens qui sont encore en vie de cette époque-là. Mais c'est aussi un film d'archives. Et faire un film documentaire d'archives, en France, même dans le monde, j'imagine, c'est un peu compliqué d'un point de vue déjà financier. C'est-à-dire que les archives, ça coûte cher. Déjà, il y a très peu d'archives de Lizzie Mercier de Lowe, surtout dans sa période, elle était jeune, hein, à la fin des années 70. Elle avait, en 75, elle avait 17 ans. Donc, vous voyez, en 77, elle avait 19 ans. Donc, elle était très jeune et ce n'était pas spécialement documenté. Alors, les autres artistes de la No Wave, les artistes de la musique, étaient un peu documentés. Donc, il y a quelques traces filmiques ou sonores des concerts de ses amis de la scène new-yorkaise. Mais elle est très, très peu documentée. Et du coup, à ma connaissance, je n'ai retrouvé qu'un live filmé, un seul morceau filmé à la fin des années 70 de Lizzie Mercier-Détroux. Par contre, il y a un peu de photos, et encore pas tant de ça. Elle a surtout été documentée après, dans les années 80, quand elle a commencé à avoir du soutien en France. Voilà, donc du coup, moi, je suis un peu à la recherche d'archives comme ça sur elle. Et dans cette fin 70, début 80, où elle avait vécu 5 ans à New York, du coup, c'est voilà. Alors déjà, c'est un peu compliqué au niveau du travail, mais c'est aussi un peu compliqué au niveau financier, parce que tous les extraits... Moi, ça va être un film d'une heure qui va parler aussi de sa carrière après New York, c'est-à-dire qu'elle a continué à faire des albums jusqu'à la fin des années 80. Après, elle est tombée un peu dans l'oubli, et après, elle est morte assez prématurément. Et du coup, toutes ces archives arrivent surtout avec son succès en France, mais où sont passées les gazelles. Et du coup, toutes ces archives filmiques appartiennent à l'INA, par exemple, et ça coûte très cher, en fait. C'est à peu près dans les 500 euros les 30 secondes. Si je veux utiliser 30 secondes d'archives INA, ça va coûter 500 euros. Là, vous allez voir un extrait de film assez long, un peu moins de 20 minutes, et vous allez voir que si on additionne toutes ces archives, alors là, vous allez voir un mélange d'archives. Bon, là, ce n'est pas des archives INA, parce que là, c'est la période américaine, donc il y a très peu de choses, mais vous allez voir, vous me direz ce que vous en penserez si on est amené à en parler après. Voilà. Donc, c'est un projet... C'est un projet un peu compliqué à monter. J'ai un producteur, j'ai peut-être un producteur, Girel Production, et je vais chercher une résidence d'écriture pour développer mon projet. Et avant de vous projeter le film, je vais vous lire la présentation par Michel Esteban, qui était donc un producteur à l'origine parisienne et qui était donc, on va dire, entre guillemets, son premier amour de Lizzie Mercier-Descoux. J'ai rencontré Lizzie Mercier-Descoux à mon retour de mon premier voyage aux USA. Elle n'avait que 17 ans. Elle traînait sa frêle silhouette à l'école des Beaux-Arts, passant son temps à dessiner, lire et écrire de la poésie. J'avais une boutique qui s'appelait Harry Cover, au 12 rue des Halles, au centre de Paris, où l'on pouvait trouver des disques rares importés d'Angleterre ou des États-Unis et toutes sortes de marchandises rock. Le sous-sol a rapidement commencé à ressembler à un local de répétition pour ce qui allait devenir la première vague de groupes punk rock parisiens. Quand j'ai créé le premier fanzine punk français, Rock News, en 1975, il était clair que Lizzie devrait en faire partie. Nous sommes partis ensemble pour New York en décembre 1975 afin de couvrir le réveil d'une scène d'où vont rapidement émerger les groupes importants, comme les Ramones, Talking Heads, Television, Heartbreaker, Blondie, Richard L. and the Voidoids et bien sûr Patti Smith, qui est rapidement devenu un ami proche. Une amie proche. L'année suivante, c'est l'époque où les groupes anglais ont commencé à monter. Donc, ce qu'on repère déjà, c'est que les Américains, quelque part, ont été précurseurs par rapport aux Anglais pour cette histoire de scène punk. Bon, voilà, c'est ce que je tenais quand même à avancer. Et nous avons eu le privilège d'assister aux premiers concerts de groupes comme les Sex Pistols, les Clash et tant d'autres. L'aventure a été intense et passionnante. Rock News, donc ça c'est la revue, tout comme le punk, n'a pas été construit pour durer. Nous avons déménagé à New York en 1977 et sommes devenus des amis proches des principaux acteurs de cette scène locale. Patti Smith, avec qui nous partageons un loft, a insisté pour que nous formions un groupe. Lizzie a ensuite acheté une Fender Jazzmaster et a commencé à visiter les clubs et les galeries de Soho et du Lower East Side, rejointe par mon frère Didier sous le nom de Rosa Yemen. J'ai moi-même préféré le statut plus discret de producteur dans l'ombre. À cette époque, je venais de produire avec John Cale le single de Marie et les garçons, le semi-culte Rebop. John m'a demandé plus tard de l'aider à créer son propre label Spy Records. Pendant que Lizzie écrivait son premier livre, Desiderata, que j'ai publié peu après. Un recueil de poèmes, collages, dessins, images, avec la collaboration de Richard L. et une préface de Patti Smith. Grâce à John Cale, j'ai rencontré Michel Zilka et le futur associé avec qui j'ai formé The Record, le label sur lequel est sorti le premier LP de Rosa Yemen en 1978. La même année, New York voit émerger une nouvelle scène appelée plus tard No Wave par les journalistes. Composée par Wannabe Artie, un groupe éclectique composé de musiciens, cinéastes ou graffeurs comme Keith Haring ou Jean-Michel Bastiat. Tout le monde a joué dans les groupes de l'autre, a joué dans les films de l'autre et a même composé les bandes sonores. Arthur Lindsay, Lydia Lunch, James Chance, Mars, Lizzie Mercier-Descoux, ils ont tous fini par signer sur Z Record. New York, entre 1978 et 1981, était probablement l'un des endroits les plus créatifs de la Terre. En 1978, Lizzy sort son premier LP, Press Color, enregistré dans le désormais mythique Blank Tape Studio, où le maître de la maison Bob Blank enregistre la plupart des albums de Z. Voilà. Voilà une courte introduction, enfin une introduction à Michel Esteban, nom de ce producteur, qui plus tard a été le producteur de Lio et son mari aussi. Voilà, donc je vais vous mettre le film.
Histoire de Pink Floyd. Stop. Place. Well, yeah.
Vous dites d'ailleurs que ça c'est un point d'histoire parce que c'est aussi un livre sur une époque essentielle, hein, Paris de la fin des années 70, le Paris des Halles dans lequel Lizzy Mercier Desclous est né a beaucoup musardé. Et puis le New York de la fin des années 70 et puis ce moment charnière du début des années 80.
Back on the street again, the Lower East Side. Looked like a war zone, like we dropped a bomb on ourselves. But it was okay. I'd met a beautiful woman, and she'd put me up for a night or two. Found enough money in my apartment to buy a joint.
She was born Martine Elizabeth Mercier in Paris on December 16th, 1956. And as a teenager, she sort of struck up a romance with Michel Esteban, the owner of a rock and roll, sort of punk fashion boutique.
Yeah, I'm welcome. Tu le sors? Tu pépé? Dear Martel. Tom Collins, Bossa Nova, Mimosa.
With Lizzy, he started the magazine Rock News. Then they started traveling regularly to New York and, you know, researching Patti Smith, and Michel was starting his own record label, Z Records. So Lizzy and Michel were really among the first people to catch on to the importance of punk music. But they weren't the only ones who knew something special was happening in New York.
Ouais, c'était un fanzine, hein. C'était pas un grand magazine, c'était un petit magazine de rock, en noir et blanc, sans publicité. En fait, on faisait ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses en France dont les gens parlaient pas beaucoup. Et on s'est dit, bon, moi j'en avais assez de lire les journaux de rock en France, et je me suis dit, j'aimerais bien parler des gens que j'aime bien. Donc on a fait le journal dans ce sens-là. Puis c'était pas vraiment du journalisme, c'était un moyen d'écrire. Bon, moi j'adore écrire, ça venait de la frustration d'écouter des disques chez toi et de savoir que jamais personne n'en parlait, qu'il n'y avait pas une photo d'eux qui sortait dans la presse, que ces gens très souvent, il n'y avait pas de concert en France ni rien, et de savoir en même temps qu'il y avait énormément de gens en France qui avaient envie d'entendre parler du Velvet Underground ou d'Iggy Pop ou de gens comme ça à l'époque. C'est venu de ça en fait.
Non mais comme on a parlé d'une américaine, là, Lizzy, française qui vit en Amérique. Exact. T'es punk?
Non, je suis pas punk.
T'es punk?
Je suis pas punk.
Non, bah t'es Lizzy Desclous alors.
Lizzy Desclous.
To watch all the new bands come up, to watch these kids make such a physical assault, I felt like, I mean, when I watch, you know, like, you know, the Sex Pistols and all these groups, you know, I mean, I love Johnny Rotten, I think is pretty great.
La peste simple est virus number two. Désolée.
I can remember, though I don't know how much of it is embellished by my you know, as memories will embellish themselves. But first seeing her in CBGB's, and that we kind of locked eyes, and it was and kind of everything else fell away except our eyes on each other, and it was like that between me and her from that point on. I mean, we were together off and on in various ways and to various degrees and levels of intensity for a decade or two, though, you know, we would go for years without even seeing each other. But we almost got married a couple of times.
Victor! Victor!
On n'a pas beaucoup parlé de toi, on t'a entendu chanter Fire, on a vu que tu chantais ça avec Fougue. Est-ce que tu... Alors tu viens de New York, tu es française et tu t'es toujours intéressée à la chanson, je suppose, et à la musique. Mais alors tu as commencé comment ?
J'ai commencé à écrire dans des journaux, j'ai commencé à jouer de la guitare il y a 2 ans et puis là j'ai composé cet album qui va sortir.
Mm-hmm. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs hein, maintenant. Est-ce qu'ils ont plus de possibilités de s'exprimer ou quoi ?
Ouais, ils sortent ce qu'ils ont dans leur trip, comme ça c'est plus sincère, je trouve, que de demander à l'un ou à l'autre.
Oui, c'est plus passionnant aussi, au moins on a ce qu'on veut en principe, sauf quand on est dépassé par ce qu'on écrit.
40 secondes. Et puis ça paye.
Ça paye bien.
Ça paye bien.
Quand ça rigole.
And yeah, it was, you know, it was one of those sort of youthful, very intense relationships that are kind of fantasy, because for one thing, at the beginning we could hardly communicate. She didn't really speak English and I didn't speak any French.
Head wrapped in your hair, in a box lined with silk, yeah. You can't learn to talk, babe.
C'est d'ailleurs amusant de voir comment les hommes, entre eux, dans le cas de Lizzie Mercier-Desclous, c'est les hommes qui se crêpaient le chignon, justement, autour du cas de Lizzie Mercier-Desclous. Ils étaient tous un peu amoureux d'elle, ils lui couraient tous après. Elle était là si elle voulait, elle n'était pas là si elle voulait. Et c'était un peu à eux de s'adapter à elle systématiquement. Et donc, il y a un rapport un peu particulier qui est qu'on l'a souvent décrit, effectivement, comme une sorte de muse. C'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où déjà beaucoup de ces hommes en question en parlent encore aujourd'hui comme si elle avait totalement bouleversé leur vie et comme si justement elle les avait façonnés plus que l'inverse. Je pense qu'une chose qui est intéressante à constater aussi, c'est que parfois dans certains milieux musicaux, artistiques, disons d'avant-garde, on pourrait penser que justement ces stéréotypes, ces clichés, ce sexisme un peu ambiant est un peu moins à l'œuvre parce que justement on serait dans l'avant-garde, dans ceux qui imaginent demain. Mais par exemple dans le cas de Lizzie, ça a été le cas, elle était à New York à la fin des années 70, un moment où tout le monde essaye de redéfinir beaucoup de codes de genre, notamment dans le rock. C'est un moment où les mecs deviennent un peu plus androgynes, se sentent un peu moins obligés d'être très d'avoir ces postures très, très rockstar avec des cohortes de groupies, des choses comme ça, de jouer un peu moins de solo de guitare ou de choses comme ça. Il n'empêche que même dans ce milieu-là, en fait, ce qu'elle, elle a pu constater, et ce que d'autres ont constaté aussi d'ailleurs, il y a toujours ce sexisme qui est là et qui, même si on est dans un milieu qui se veut progressiste avec des idées d'avant-garde, garde quand même une forme de sexisme intégré qui est là. Quoi.
Et toi, Lizzie, est-ce que là-bas, aux États-Unis, t'as de gros problèmes? Est-ce que t'as envie de les offrir en chanson?
Bien sûr, je compose aussi mes morceaux et... Mm-hmm. Bon, je sais pas, bon, le problème de la femme, c'est...
Toi, pour l'instant, t'as un problème de cœur qui bat un peu vite parce que tu t'es donné dans ta chanson.
En paralysie, en pleine antenne, mais... Alors, le problème des femmes, problème cardiaque, par exemple... Non, je sais pas, je veux dire, pour moi, le problème des femmes, c'est quelque chose de beaucoup trop... compliqué pour l'instant pour en parler, pour dire je fais une chanson sur les femmes, je veux dire...
Oui, oui, puis tu as quel âge, toi? Tu as 22 ans, 21, 20?
Non, 22 ans, mais je veux dire, on peut écrire des chansons sur les femmes à 15 ans ou à 8 ans, je veux dire,
toi non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on veut exposer des problèmes, on les expose peut-être d'autant mieux que la vie est déjà un petit peu plus avancée, même de quelques années.
And I am Lydia Lunch. And I'll never be on this again. Because what I'm telling you about is reality and beauty and truth and filth, the real thing. And what you want is boring and stupid and senseless and trivial. You've got it.
Alors, Lizzie Mercier des Clous. Finalement, a à peu près cette même démarche, surtout dans son début de parcours artistique, avec la No Wave et son premier album, hein, premier disque avec des morceaux de 1 minute 30, avec ce refus de l'harmonie, très inspiré de l'esthétique et la philosophie de Lou Reed dans Musique Metal Machine. C'était ça aussi, Lizzie Mercier des Clous.
C'est ça. Elle arrive en 78 à New York. C'est un moment où on commence à remettre beaucoup en cause les notions de tonalité, de manière de chanter, etc. Elle arrive très très vite avec une proposition vocale qui est un peu inédite, ou en tout cas qui va peut-être plus loin que d'autres à ce moment-là, qui est vraiment basée sur les onomatopées, les cris, les murmures, les choses comme ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, en plus, elle parle très mal anglais, donc elle dit un peu n'importe quoi. Enfin, elle parle dans une langue qui mélange un peu d'anglais, un peu de français, un peu de yaourt, de choses comme ça. Et on sent que chez elle, dès le début, il y a vraiment cette envie de se positionner là-dessus, de dire non, je ne chanterai pas, parce que c'est pas parce que je suis une femme que je dois chanter. Non, je ne serai pas non plus sexy ou une chanteuse à voix, mais je tracerai juste ma voix à ma manière. Elle a fait deux albums sur ce principe-là, et très très vite, c'est vrai que beaucoup de producteurs insistaient pour qu'elle chante, parce que les producteurs veulent vendre des disques, et c'est généralement plus facile à faire quand on a quelqu'un qui chante que quand on a quelqu'un qui hurle, qui fait un peu... qui est aussi sauvage comme ça d'un point de vue vocal.
I only saw her play once, and seeing that kind of confirmed this, you know, these feelings of mine to me that she wasn't really, it didn't really come naturally to her to be a performer. I mean, she was really riveting as a person in a room. She was electrifying.
elle frappait la guitare, elle savait pas jouer de la guitare au sens conventionnel du terme, mais elle avait un style, une rythmique, quelque chose à elle là-dessus. Et ça allait aussi dans cette direction-là, l'idée de remettre en cause la notion de beau. Et je pense que ça a été son gros cheval de bataille, au moins au début. Et sur la fin, c'était quelque chose qui lui restait en tête, mais qui était plus mis à l'épreuve par le contexte, les maisons de disques, etc.
Basically, she's a poet, but the way that she used to work was she used to sort of just ride on rhythms, and she used to tailor concepts that she'd already written, and she wrote most of them in various states of drunkenness, to be honest with you. It was definitely a process where she had the ideas, the inspiration for the songs way before she'd even heard any music, and then she'd hear the music and tailor them into songs. I don't think of her as a musician. But to me, she's this kind of magical free spirit of a beauty. You know, the music just came about because she was charismatic and had a good voice and loved music and had good taste, and she had these men around her who would put her in these settings.
Oh my good, oh mon bien, my beautiful, mon beau, enter the atrocious street band. Un phare atroce, je ne trébuche pas. I won't stumble. Chevalier féerique, very wreck-off.
Trumpets, violins, sigh. Hear them in the distance. And my skin. It's a ray, but I think it's too sad. It's much too bad that all our friends can't be with us today. Lizzie Mercier.
Peut-être de chagrin à la lecture des dernières pages qui racontent l'isolement de Lizzie Mercier-Desclous au milieu des années 90 et sa maladie 10 ans plus tard, le cancer. Mais quelle ironie quand on a enregistré des années avant une merveilleuse reprise de Fever qu'elle avait renommée Tumeur. On est touché par l'attention des quelques proches comme Richard L. qui vont l'accompagner en Corse pour voir le soleil une dernière fois. Elle qui ne supportait plus sa chambre d'hôpital, même après l'avoir décorée de la façon la plus extravagante et colorée possible. Sun is shining, paraît-il.
She managed to get her way and have the hospital allow it and have me and another two friends of hers escort her down to
Corsica, which is the place she loved, on the ocean. She loved to sail, and we took her to a little town that she knew where there were people who would allow her to stay in a room there where she would have a view of the ocean. And that's where she died.
Voilà, donc vous avez vu, donc c'est un film un peu pirate, hein, ce que vous avez vu, parce que vous avez compris ce type d'archives, logiquement. Alors il y a un mélange d'archives, bon, d'images à moi, et aussi des archives personnelles des gens qui l'ont côtoyé, des photos aussi. Mais après, le film continue sur la suite de sa, donc avant sa mort. Là, j'ai fait un raccourci évidemment entre sa période new-yorkaise et la mort dont on parle à la fin. Et donc là, on est sur une base de travail, de recherche d'archives que moi je fais pour pouvoir après développer ce projet de film et faire un état des lieux des archives disponibles. Et après, en fait, donc après New York, en fait, elle s'est orientée dans un autre style de musique, mais on entend des morceaux à un moment. Vous avez vu un côté un peu funk, funky, mais qui est quelque part un peu une suite logique de ce qu'elle avait commencé à développer dans ses deux premiers albums avec la No Wave. C'est ce côté un peu scandé, où sa voix est aussi, participe aussi à la musique et aussi à un instrument, finalement. Et donc après, en 81, elle part à Nassau, dans les îles américaines, pour enregistrer Mambo Nassau, qui avait Chris Blackwell, qui était donc le patron d'Island Records. Et donc, elle se retrouve dans... Donc, pour elle, c'est totalement... elle veut partir de New York, parce que New York, quelque part, pour elle, tourne en rond. C'est la fin un peu... Voilà, c'est la fin de la No Wave. C'est la fin d'une époque un peu rêvée, entre guillemets, même si ce n'était pas parfait, cette époque. Et ensuite, en 83, elle part en Afrique du Sud. Donc, elle s'oriente vers la musique, on va dire, du monde. Et elle est un peu précurseur de la world music. Bien avant, finalement, Peter Gabriel ou Johnny Clegg. Et en Afrique du Sud, elle enregistre Zulu Rock. Et après, 88, elle fait Suspense avec Mark Cunningham, qui est du groupe Mars, qu'elle avait connu à New York. Toutes ces difficultés par rapport à ce film commencent. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie.